Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil. Merci d'écouter RMC. Il est 8h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure des infos. Victor Pourchet, bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. À la une, ces collégiens de Viry-Châtillon qui ont appris la mort de leur camarade Chamseddine en pleine classe. 5 jeunes ont aussi été placés hier soir en garde à vue. Retour vers la future réforme pour la formation des professeurs. Emmanuel Macron veut recréer la licence juste après le bac dédié à la préparation du concours. Et puis ces dealers parisiens qui coupent les câbles et la lumière pour mieux trafiquer.
C'est encore une fois leur âge qui interpelle. 5 jeunes répondent aux questions des enquêteurs sur la mort hier de Chamseddine.
15 ans, 17 ans, 20 ans, ils ont été placés en garde à vue hier dans l'enquête pour violence en réunion et assassinat. L'assassinat de cet élève tabassé à la sortie de son collège jeudi et qui a succombé hier à ses blessures, laissant sous le choc la ville de Viry-Châtillon. Clément Brossard a commencé par ses camarades de classe.
Si certains élèves perturbés par l'agression de la veille ont préféré ne pas venir, d'autres ont appris la mort de leur camarade en cours, comme Berat, ami de la victime.
Ma prof d'anglais, elle commençait à faire son cours et elle a reçu une notification. Et j'ai vu dans son visage qu'elle est devenue toute pâle et elle a changé d'humeur. Elle a direct commencé à pleurer et on s'est dit il est mort. On a arrêté le cours.
Certains élèves rejoignent alors une cellule psychologique mise en place au sein de l'établissement, d'autres échangent dans la cour. C'est tout un collège qui est sous le choc.
Parce que je le connais depuis qu'il est tout petit. Tout le monde l'aimait, tout le monde était copain avec lui, tout le monde le connaissait, il était gentil. C'est surtout choquant. Alors, c'est un traumatisme pour certains surtout.
Un émoi qui traverse la rue jusqu'au quartier des Sablons où Chamseddine résidait. Maxémilie, maman de 2 enfants, est une des voisines de la famille.
Il y a même les enfants qui restaient dans le hall de chez moi, je ne me suis jamais inquiétée. Mais à partir d'aujourd'hui, je devais être inquiète. Quand je vois un enfant, je me dis que peut-être qu'ils attendent mes enfants. Donc ça devient dangereux parce qu'on ne sait plus.
Le quartier des Sablons réfléchit désormais à rendre hommage à Chamseddine. Une marche blanche et une cagnotte ont été évoquées.
Clément Brossard pour RMC.
Et à 8h40, quelle réponse face à l'ultra-violence des mineurs? Paul Haïs, fondateur de l'association Jeunes et Engagés, sera notre invité. Il est aussi juge assesseur dans un tribunal pour enfants.
Alors qu'une autre de ces affaires fait la une, celle de Samara à Montpellier, dont les 3 agresseurs présumés, 3 mineurs, ont été mis en examen hier pour tentative d'homicide volontaire. Ils sont désormais sous contrôle judiciaire et ont interdiction de s'approcher de l'adolescente.
L'école doit être un sanctuaire, martelait hier Emmanuel Macron, le chef de l'État qui dévoilait dans le même temps sa réforme du concours pour devenir enseignant.
On manque de professeurs, il faut en former plus et surtout plus vite, c'est l'idée et le constat de ce futur texte, Romain Cluzel.
Emmanuel Macron veut accélérer les cursus de formation des professeurs et cela commence dès l'après-bac. Les étudiants pourront suivre une licence spécifique en 3 ans avant de passer le concours contre 5 ans aujourd'hui. Une sorte de prépa intégrée selon les mots du chef de l'État, centrée sur le français, les maths et l'histoire-géographie. Une fois le concours obtenu, les futurs profs auront toujours 2 autres années d'études, mais avec au minimum la moitié du temps passé dans les classes avec les enfants de manière encadrée et rémunérée. 1 400 € net par mois la première année, puis 1 800 € la seconde. Une manière de professionnaliser plus rapidement ces jeunes profs pour tenter de rendre le métier plus attractif. Une réforme contre-productive selon le principal syndicat du primaire qui redoute que les aspirants professeurs soient envoyés trop tôt devant les élèves.
Romain Cluzel pour RMC. Autre annonce du gouvernement ce matin. 1,1 milliard d'euros supplémentaires pour les soins palliatifs. Presque le double du budget actuel. C'est ce que dit la ministre de la Santé Catherine Vautrin. Les 21 départements sans unité spécialisée en auront une, promet-elle, comme pour montrer, afficher en tout cas que le gouvernement n'abandonne pas les soins palliatifs avant la présentation mercredi de la loi fin de vie.
RMC 8h03, extinction des feux, plus aucun lampadaire qui fonctionne. Pourquoi ? Eh bien parce que les dealers l'ont décidé.
Et parce que ces trafiquants de drogue du 18e arrondissement de Paris sont plus tranquilles dans la pénombre pour faire leurs ventes. Et cela dure. La société de maintenance ne cesse de venir réparer depuis 4 mois. Mais les dealers continuent de vandaliser. Plongés dans le noir, les habitants sont à bout. Le reportage pour RMC d'Inès Zegloul.
Les 2 lampadaires qui ont été éteints, c'est celui-ci et celui-ci.
Rue Championnet, passé 23 heures.
Sur 100-200 mètres, c'est dans le noir, quoi.
En cause, le vandalisme de ceux qui squattent autour du numéro 54.
Le point de deal, clairement, il est là. Quand les flics arrivent, ils doivent pas vouloir qu'on voit de loin ce qui se passe. Sur ce lampadaire-là, il y a un boîtier. Il l'ouvre et il pète des fils à l'intérieur.
Bah, on vit un enfer, en fait.
Épuisé, Odile guette les trafiquants par sa fenêtre.
Quand nos enfants sortent, on est un petit peu inquiet parce qu'on est complètement dans l'obscurité. Au-delà du fait qu'on est dans l'obscurité, c'est le message qu'on reçoit et qui consiste en gros à nous dire la rue nous appartient. Regardez.
Voilà. Et c'est quoi que vous montrez?
Ça, c'est de la coke.
Les dealers vont jusqu'à cacher la marchandise dans son hall d'immeuble.
On a trouvé ça dans le local poubelle.
Alors désormais, la mairie du 18e ne voit qu'une solution.
Des démantèlements de points de deal, de réseaux.
Kevin Havé est adjoint maire de l'arrondissement, chargé de la sécurité.
Nous avons demandé d'accroître les îlotages de la police municipale dans ce secteur-là. Plus de patrouilles.
En attendant, pour que la lumière revienne rue Championnet, la mairie promet d'installer des boîtiers anti-vandalisme sur les réverbères.
Le reportage d'Inès Zegloul dans le 18e arrondissement de Paris pour RMC.
Le sport et d'abord le football avec la qualification en Ligue des Champions qui s'éloigne pour l'Olympique de Marseille.
Battu 3 buts à 1 par Lille hier soir, l'OM est 7e. Le LOSC monte de son côté sur le podium d'un classement de Ligue 1 ultra dominé par le Paris Saint-Germain qui affronte ce soir la lanterne rouge Clermont comme une dernière répétition générale avant le choc en quart de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Arthur Perrault.
Oui, dans 4 jours, le PSG joue une grande partie de sa saison. Un quart de finale de Ligue des Champions déjà dans les têtes de tous les supporters. Mais Luis Enrique ne veut pas que ses joueurs prennent à la légère ce match de Ligue 1.
C'est évident qu'on a des matchs très importants, mais le plus important là tout de suite, c'est qu'on n'a pas encore gagné la Ligue 1. Il faut gagner contre Clermont et ça va être très difficile parce qu'il y a toutes les circonstances réunies pour que ce le soit. On doit être en bonne position pour gagner tous les matchs. Je ne veux aucun joueur qui pense à Barcelone, je veux seulement des joueurs qui pensent à Clermont.
Face au dernier du championnat, le coach espagnol devrait faire souffler des cadres comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Warren Zaïre-Emery. Reste aussi à trouver la meilleure formule en défense, Marquinhos devrait débuter ce soir. Le capitaine du PSG, de retour de blessure, doit retrouver du rythme avant mercredi. Luis Enrique attend beaucoup de ses joueurs, pas de relâchement. Le technicien veut voir une version ambitieuse du PSG face à la lanterne rouge.
Arthur Perrault, il y a un autre match au programme de Ligue 1 ce samedi. Lens Le Havre, ce sera à 17h.
Et puis du rugby, double champion d'Europe en titre, La Rochelle défie aujourd'hui l'équipe des Stormers au Cap en Afrique du Sud.
L'enjeu, un billet tout simplement pour les quarts de finale de la Champions Cup, mais face aux Sud-Africains qui les avaient déjà battus en poule cet hiver. La tâche s'annonce compliquée contrairement aux années précédentes, comme l'explique Paul Boudéan, troisième ligne du Stade Rochelet.
Les années précédentes, on avait eu un parcours plutôt favorable parce qu'on avait terminé en haut de tableau à chaque fois dans les poules. Cette année, on est un peu plus en difficulté. Si on arrive à être champion cette année, au moins, personne ne pourra dire qu'on a triché, quoi. On a affronté des très, très belles équipes en poules. C'est sûr qu'on a un calendrier qui s'annonce pas simple.
Paul Boudéan au micro RMC de Romain Asselin. Et puis, il y a de la Formule 1 aussi ce matin. Les qualifications du Grand Prix du Japon viennent tout juste de commencer. On connaîtra bientôt donc qui aura la pole position. Je peux juste vous dire que ce matin, c'est Max Verstappen, champion du monde en titre, qui a largement écrasé les derniers essais libres. Bon, comme d'habitude, on verra ça quand même tout à l'heure à 9h avec Jean-Luc Roy.
Oui, notre monsieur F1. Mais c'est super, hein ? Comme d'habitude, on découvre petit à petit votre playlist favorite.
C'est vrai.
C'est 7h, particulièrement daté ce matin.
Voilà, on avait Balavoine tout à l'heure.
Daniel Balavoine à la fin du journal de 7h. Claude François à la fin du journal de 8h. Victor Pourchet a donc eu une jeunesse dans les années 70.
Bon, je suis sûr qu'on a quelques morceaux en commun là-dessus.
C'est vrai, vous avez raison. Vive la nostalgie. Il est 8h08.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes
Marie,
chrono.
On a encore un très beau week-end à offrir.
Oui, c'est ça, un week-end de divertissement pour deux dans le casino Hôtel Partouche de votre choix. Alors, il y en a au Havre, à Aix-en-Provence, à Forges-les-Eaux, à Dieppe et bien d'autres. Alors, vous profiterez d'un repas à la brasserie du casino ainsi que 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans en abuser, évidemment.
Bien sûr. Alors, pour remporter votre week-end chez Partouche, vous appelez le 3216 et vous composez la touche 4. Ou bien le mot matin par SMS au 732-16. Matin par SMS au 732-16. 10 minutes pour vous inscrire. Le gagnant ou la gagnante avec nous avant 8h30.
À suivre dans la matinale week-end.
Quelle réponse face à la violence des jeunes? Désinhibés, selon Emmanuel Macron. Paul Aïs est juge assesseur pour enfants, président de l'association Jeunes et Engagés. Il a des solutions. Il est notre invité tout à l'heure à 8h40.
À 8h20, la story sport. Vous nous parlez de quoi ce matin, Antoine Salva?
Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle caféine, chicane autour des pavés Paris-Roubaix aujourd'hui et autour de la sécurité du peloton. Effectivement, avec de nombreuses chutes cette semaine, on en reparlera tout à l'heure.
À tout à l'heure. Avant cela, fini les ouvertures le dimanche jusqu'à 23h. 23h et les caisses automatiques. Le repreneur du groupe Casino veut remettre de l'humain dans les magasins. Est-ce qu'il faut revenir à nos bons vieux supermarchés à l'ancienne? On en parle avec vous dans 2 minutes sur RMC.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end. RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bienvenue sur RMC, il est 8h13.
Le témoin RMC.
Notre témoin ce matin, Olivier Salomon, expert de la grande distribution pour le cabinet Alix Partners.
Bonjour à vous, merci d'être là. Le nouveau patron de Casino promet de faire marche arrière sur l'automatisation des caisses dans ses magasins. Fini le tout automatique, il veut remettre de l'humain, du service, de la proximité. Comment vous analysez tout ça? Comment expliquer en fait ce changement de braquet? C'est parce que ça ne plaît plus aux clients?
Alors, sur le sujet des, il y a plusieurs éléments. Il y a la situation spécifique de Casino, le changement d'actionnaire, le changement de direction, changement de périmètre, se recentrer sur la proximité. Et donc, cet argument d'humaniser les magasins en remettant du personnel, en remettant du service, est relativement cohérent avec l'histoire ou la trajectoire récente du groupe. Mais ça pose aussi la question plus large de l'efficacité des caisses automatiques,
et oui,
de leur raison d'être, de la perception par les consommateurs, par les clients, de ces caisses et du service qui est associé.
On en est un peu revenu de ces caisses qui étaient la révolution. On en est même allé jusqu'à la scanette directement en rayon. Anthony Morel, qui est notre monsieur nouveau technologie, nous vante régulièrement. Vous verrez bientôt, vous aurez même plus besoin de payer. On entrera dans un magasin, l'intelligence artificielle saura ce que vous avez pris et puis ça sera débité sur votre compte bancaire. Est-ce que finalement, ce n'est pas une forme de retour en arrière? Parce que tout ça ne marche pas en réalité. On ne sait pas faire fonctionner un magasin en tout automatique. Ce n'est pas possible.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, Amazon récemment est revenu sur certains de ses projets. C'est pour plusieurs raisons probablement. D'abord parce que l'équation économique est moins bonne que ce que les distributeurs imaginaient. Et puis par ailleurs, les clients demandent du service, demandent du contact. En réalité, quand on interroge les consommateurs, en grande majorité, ils sont plutôt à l'aise avec ces caisses automatiques, sur le principe.
Mmh.
Typiquement, 60% des consommateurs disent c'est plutôt favorable, c'est plutôt utile, c'est plutôt efficace. En revanche, ils expliquent aussi très souvent rencontrer des difficultés dans l'utilisation des caisses automatiques.
Bah, ça bug une fois sur deux.
Ça bug un peu fréquemment.
Bon, on va poser la question aux consommateurs. Tiens, Ghislaine nous appelle au 3216 ce matin depuis l'Ardèche. Bonjour Ghislaine.
Oui, bonjour.
Vous êtes retraitée là-bas en Ardèche. Vous utilisez les caisses automatiques ou pas?
Oui, mais alors uniquement quand j'ai très peu d'achats.
Oui.
Et que je suis pressée par le temps.
D'accord.
Parce que je n'aime pas du tout.
Mmh.
Pour les raisons qui ont été invoquées, moi je fais mes courses dans un Intermarché, un supermarché. Je connais les caissières, je sais lesquelles sont les plus agréables, et puis ça va plus vite qu'à la caisse automatique pour un caddie.
Avec celles ou ceux avec qui vous pouvez échanger, faire le petit point de la semaine. Non, mais c'est ça qui est important aussi, Ghislaine,
ben
dans
oui.
les supermarchés. On y va aussi pour ça.
Ben oui, parce qu'on n'a plus de contact avec qui que ce soit. Déjà, toutes les démarches qu'on fait, elles doivent être faites en ligne. On n'a plus de contact. Si en plus les courses, c'est pareil, c'est déjà presque une corvée. Alors si en plus on voit personne, non, c'est compliqué.
En fait, Olivier Salomon, la question, c'est quelle société on veut?
Absolument. Ça pose des questions assez générales sur le développement de la technologie ou des solutions associées à la technologie. Et comme vous disiez, le type de société dont on a besoin. Là, en l'occurrence, on a des solutions qui sont relativement efficaces pour le passage en caisse, mais néanmoins, ce qu'on vient de l'entendre, on cherche du contact, du service, de la relation, de la chaleur humaine. C'est vrai que dans certains magasins ou dans certaines enseignes, on fait le constat que ce contact quotidien ou hebdomadaire mmh. avec le personnel du magasin, c'est un contact important de la vie du client.
On avait Carole tout à l'heure qui travaille depuis 27 ans chez Casino, qui est manager hôtesse de caisse et qui nous disait, nous, elle les appelait les petits vieux. Nos petits vieux, ils ne viennent plus dans nos magasins Casino parce qu'ils ont perdu justement ce goût de pouvoir échanger avec les hôtes et les hôtesses de caisse. Ce que dit Ghislaine aussi à l'instant, on va aux caisses automatiques pour les petits achats, mais pour le gros plein de courses, on continue d'aller sur le tapis roulant avec la caissière.
Ça, c'est un point très important. C'est le constat que font les distributeurs avec qui nous échangeons. C'est-à-dire que ils observent quand ils ont mis en place des caisses et massivement des caisses, que les paniers moyens se réduisent.
Et c'est peut-être et donc, aussi pour ça qu'ils veulent revenir en arrière. Florian nous appelle aussi depuis le Val d'Oise. Bonjour Florian.
Bonjour.
Cadre
bonjour.
Dans un supermarché, dubitatif, pourquoi ?
Oh, pour plusieurs raisons, surtout la raison principale, c'est qu'on n'arrivera pas à supprimer les caisses automatiques, déjà parce qu'on arrive par côté de personnel, en partie à l'attitude des consommateurs. Aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, on parle de service. Les gens interprètent service en disant « je suis client, je suis le roi
ouais. ».
C'est des insultes aux hôtesses des caisses, c'est des menaces physiques, c'est des produits jetés dans la figure. Et des menaces physiques à la sortie du magasin.
C'est-à-dire c'est un métier qu'on n'a plus envie d'exercer aussi.
Voilà, tout à fait. Moi, je comprends tout à fait une jeune fille qui est étudiante, par exemple, qui pour payer ses études, fait un petit job le week-end, le samedi, le dimanche, et travaille 10 heures et se fait insulter à longueur de temps. Mmh. Parce que les gens se prennent pour les rois.
Ça me fait penser à un message qu'on a reçu plus tôt de Foued, qui nous disait « Depuis l'arrivée des caisses automatiques, les clients... Eh ben, se replient sur eux-mêmes, ont pris cette habitude finalement d'être seuls, Olivier Salomon, et même quand ils passent aux caisses avec des humains derrière les caisses, ils ne regardent pas, ils sont sur leur téléphone portable, ils ne disent même pas bonjour.
C'est le sujet de déshumanisation ou réhumanisation, pour utiliser les mots de Philippe Palazzi, qui parle de réhumanisation du point de vente, et c'est le sens de sa démarche visiblement.
Et ça peut fonctionner parce que Florian est dubitatif. À vos yeux, le supermarché du futur, il ressemble à quoi ?
Vraisemblablement, on revient vers un plus de services, plus de relationnel. On est depuis 18 mois, 24 mois dans une période fortement inflationniste. Donc le critère numéro un du choix des consommateurs, c'était plutôt le prix. Et on voit bien que les enseignes qui ont gagné des parts de marché ces deux dernières années sont des enseignes qui sont très fortement orientées prix. Mmh. Néanmoins, on peut être relativement optimiste que pour d'autres enseignes, se différencier, ça passera par du service. Peut-être plus de personnel, une offre produit enrichie, et en tout cas, du service.
Visiblement, c'est ce qu'attendent les consommateurs. On les entendait ce matin au 32-16. Je remercie beaucoup Ghislaine et Florian d'avoir eu ce réflexe ce matin pour témoigner et débattre sur RMC. Sur notre compte Twitter, la question « Faut-il revenir à des supermarchés, entre guillemets, à l'ancienne ?» Résultat définitif, oui. À 78%. Merci à vous, Olivier Salomon, expert de la grande distribution pour le cabinet Alix Partners. Il est 8h20. Dans un instant, c'est le sport.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
8h21.
RMC,
la story sport.
Et l'histoire sport du jour, c'est avec Antoine Salva.
Bonjour Antoine.
Bonjour Mathieu, bonjour Marie.
Le monde du cyclisme très agité ces derniers jours. De grands noms du peloton ont chuté et abandonné sur différentes courses alors que se profile Paris-Roubaix demain.
L'enfer du Nord comporte cette année une particularité, une chicane qui fait beaucoup parler. Les débats sur la sécurité des coureurs est lui relancé.
C'est une véritable hécatombe. Le Belge Wout van Aert saute sur à travers la Flandre il y a une semaine et demie. Vingegaard, Evenepoel, Roglic, Godu ou Landa. Cette semaine sur le Tour du Pays Basque, des favoris du prochain Tour de France au tapis. Tous sont abandonnés, victimes de diverses fractures ou problèmes thoraciques. Les images sont effrayantes, ce qui vaut au coureur de la Groupama FDJ, Stefan Kung, ce constat amer au micro d'Arnaud Souk.
On fait pas du sport pour terminer à l'hôpital, on fait du sport pour donner du spectacle aux gens.
Le coureur suisse qui prendra d'ailleurs le départ de Paris-Roubaix demain, 121e édition, marquée par un aménagement à l'entrée de la Trouée d'Arambert.
Et oui, c'est certainement le secteur pavé le plus connu de l'enfer du Nord, situé à 95 km de l'arrivée. Sur demande du syndicat des coureurs, les organisateurs ont ajouté tardivement une chicane au tracé, juste avant la Trouée, pour faire passer la vitesse de 60 à 30 km/h, pas forcément au goût de tout le monde.
Je pense que la chicane, c'est peut-être encore plus dangereux.
Le tenant du titre de Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel, est sceptique, mais il loue la réflexion sur la sécurité, tout comme Marc Madiot, sans langue de bois, comme toujours.
Si vous avez 150 bonhommes qui arrivent en même temps pour 10 places, ça passera pas.
Eh ben alors, ça ira au tas.
Moi, je suis là pour faire pédaler mes coureurs, donc je vais leur demander d'être devant. Je vais être aussi con que mes collègues.
Le manager général de la Groupama FDJ estime que l'on ne parvient plus à gérer les risques d'un cyclisme qui va toujours plus vite et que ce débat sur la sécurité n'avance pas depuis plusieurs années.
Et oui, Marc Madiot le dit avec ses mots, il déplore cette situation et ouvre le livre des solutions qui doit, selon lui, s'inspirer des autres sports.
déjà intervenir sur la bicyclette, tout ce qui va sur la bicyclette, tout ce qui fait que ça va plus vite. Les braquets, le carbone, les freins à disque, les oreillettes, les capteurs de puissance. Aujourd'hui, on a des guidons qui se rétrécissent, mais quand vous voulez tourner avec des guidons plus rétrécis, c'est moins facile qu'avec un guidon un peu plus large. Hein.
Réduire la vitesse du peloton semble le nerf de la guerre. Le peloton d'aujourd'hui va presque 10 km/h plus vite que celui des années 60-70. Pour les organisateurs de courses comme Thierry Gouvenou, une réflexion nécessaire doit être menée sur la technologie et l'humain.
On demande aux organisateurs de mettre quelque part des pansements sur ce problème. Mais à long terme, il va falloir réfléchir à la réglementation du matériel, peut-être aussi au comportement des coureurs.
Ah, comportement des coureurs évoqué là par le directeur technique de Paris-Roubaix du Tour de France. Mais c'est vrai que ça renvoie à plusieurs phénomènes.
Oui, les acteurs de la course sont au cœur d'une concurrence de plus en plus acharnée dans un peloton toujours plus nerveux. Symbole de la prise de risque accrue sur les routes, la caféine, tout à fait légale et utilisée depuis pas mal de temps déjà, ingérée sous différentes formes, elle agit comme un anti-fatigue et une aide à la concentration. Mais pour certains coureurs, elle serait responsable de comportements inadaptés sur les routes ou quand la pression du résultat prend le dessus sur la sécurité.
On va pas leur enlever le café quand même.
Non.
Parce que si on commence par enlever le café aux coureurs du Paris-Roubaix, bientôt ce sera nous. On n'aura plus le droit de café, Mathieu, alors qu'on se lève à 3h du
matin. Comment vous allez faire,
hein? Évidemment. Merci beaucoup Antoine Salva. La pression, le peloton l'aura demain au moment d'avaler les 260 km de ce Paris-Roubaix, 29 secteurs pavés, 121e édition, à suivre bien sûr sur RMC. On aura toutes les sensations, tous les frissons dans les GG du sport. 9h30 demain, délocalisé à Compiègne, hein, c'est ça le départ.
Oui. Tout à fait.
Et votre story est à retrouver sur rmc.fr. 8h25.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Marie, nous avons un gagnant.
Oh,
il y a
super.
Eu un tirage au sort. Qui va partir? C'est Nolan. Bonjour Nolan.
Bonjour.
Vous êtes dans l'Hérault, Nolan.
Exactement.
Eh ben, vous êtes notre chanceux du jour.
Et oui, vous remportez un week-end de 2 nuits de divertissement pour 2 dans le casino hôtel Partouche de votre choix. Donc, on l'a dit, hein, au Havre, à Aix-en-Provence, à Forges-les-Eaux ou à Dieppe. Et vous profiterez d'un repas à la brasserie du casino ainsi que 30 euros de crédit de jeu pour jouer. Et non, là, on n'abuse pas, hein. On n'abuse pas sur le jeu.
Non, aucun. Super content, en tout cas.
Eh ben, profitez bien. Vous aimez les casinos? Vous êtes déjà allé?
Oui, j'aime bien un petit peu, mais avec modération quand même.
Eh ben voilà, vous avez raison. On est très content que ça parte chez vous. Merci d'avoir joué avec nous.
Merci à vous. Bon week-end.
Gagnez votre séjour dans la matinale week-end sur RMC avec les casinos, hôtels et restaurants Partouche. Partouche, un large choix de lieux pour des moments uniques de bien-être et de divertissement.
Vous gagnez le matin sur RMC, vous souriez, vous vous informez. Les infos de 8h30 arrivent, restez bien avec nous.
RMC,
la matinale week-end.
Marie Lafolas, c'est un samedi particulier, aujourd'hui 6 avril et des températures qui frôlent les 30 degrés.
Oui, il va faire très chaud hein, sur la quasi-totalité du pays, environ 8 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Il fera entre 15 et 30 degrés au plus fort de la journée, 15 à Brest, 22 à Caen et Nîmes, 25 du côté de Reims, 27 dans le bassin parisien et jusqu'à 30 degrés à Biarritz. Alors côté ciel, c'est une belle journée hein, qui nous attend, excepté du côté de la Bretagne, puisqu'une petite perturbation est arrivée ce matin sur la pointe du Finistère avec des pluies localement attendues. Le ciel est d'ailleurs légèrement voilé sur la région à cause des remontées de sable du Sahara. Partout ailleurs, il fait beau avec cependant un vent assez fort. Du côté du golfe du Lion avec des rafales allant jusqu'à 90 km/h et dans les Pyrénées aussi où le vent pourrait atteindre les 110 km/h. Et cet après-midi, la pluie va gagner du terrain du Finistère jusque dans le Cotentin. Pareil pour le voile nuageux qui s'étendra du sud-ouest jusqu'au Nord-Pas-de-Calais et un vent qui ne quitte ni le golfe du Lion ni les Pyrénées.
Merci Marie et merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes sur RMC. Il est 8h30. C'est l'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité.
Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actu en 5 minutes avec vous, Anaïs Castagna. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour Mathieu, bonjour à tous. 5 personnes, dont 4 mineurs en garde à vue après la mort d'un jeune de 15 ans à Viry-Châtillon. L'été avant l'heure, il fera jusqu'à 30 degrés aujourd'hui dans le sud. Et puis on a manqué de respect au football, dit Jean-Louis Gasset, le coach de l'OM, après la défaite de Marseille face à Lille hier.
Et d'abord le choc à Viry-Châtillon où le jeune de 15 ans roué de coups jeudi après-midi à la sortie de son collège est décédé.
Il est décédé hier des suites de ses blessures et hier, 5 personnes ont été placées en garde à vue, dont 4 mineurs de 15 à 17 ans. Écoutez la réaction du maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, il était sur RMC ce matin.
Il semblerait quand même que les caméras de vidéoprotection ont joué leur rôle. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait de la part des enquêteurs. Mais ce qui est aussi dramatique, c'est l'âge, c'est encore une fois, c'est l'âge, ce sont donc des mineurs. Des mineurs qui ont commis ça. Alors, il y a un majeur dans le lot, hein, bien sûr, mais ce sont des mineurs, ça fait encore plus d'effroi, ça fait encore plus peur.
À Montpellier, trois mineurs impliqués dans la violente agression de Samara, 13 ans, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Et puis une autre agression particulièrement violente a eu lieu cette semaine. Une adolescente de 14 ans, frappée par cinq jeunes filles dans le quartier du Beffroi à Tournord. Elle aurait été victime d'un guet-apens, agression filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux. Quatre jeunes filles seront jugées. La cinquième, âgée de 11 ans seulement, sera prise en charge sur le plan éducatif par un juge des enfants.
Une montée de la violence chez les jeunes qui a fait réagir hier Emmanuel Macron.
Le président a appelé hier à protéger l'école d'une forme de violence désinhibée. Emmanuel Macron, qui était en visite dans une école parisienne, il a annoncé une nouvelle réforme de la formation des enseignants. Les professeurs du premier et du second degré vont passer le concours à Bac plus 3, non plus à Bac plus 5. Ils seront rémunérés durant leurs deux années de master qui auront lieu en alternance. Objectif, répondre à la crise des vocations. Mais Guylaine David, secrétaire générale de la FSU, SNUIPP, premier syndicat du primaire, n'est pas vraiment convaincu par les annonces du chef de l'État.
On est favorable à cette formation de deux ans rémunérée qui peut attirer les étudiants à terme. Mais après, il faut voir ce qu'on y met dans cette formation. Et là, pour nous, il y a une ligne rouge de franchise sur le fond de la formation en elle-même. On a l'impression que le métier d'enseignant, de professeur des écoles ne serait que un métier où on applique des fiches et des bonnes pratiques et des méthodes. Non, c'est pas comme ça que fonctionnent les élèves. D'ailleurs, il n'y a aucune méthode qui est efficace pour tous les élèves parce que ça dépend bien évidemment de la construction de chacun. Et ça nous inquiète énormément.
Et ce matin, je voulais aussi vous parler de cette rue du 18e arrondissement de Paris qui n'est plus éclairée la nuit, rue Championnet. Des trafiquants de drogue arrachent des câbles électriques pour vendre en toute tranquillité. La société de maintenance ne cesse de venir réparer depuis 4 mois, mais les dealers recommencent à chaque fois. De quoi excéder les habitants? Écoutez Julie, qui n'est pas franchement rassurée.
Déjà le soir, quand il y a de la lumière, ça craint un peu quoi. Il y a quand même un peu de crackhead qui passe de temps en temps. Donc quand il n'y a pas de lumière, je me sens encore moins... Enfin, je me sens vulnérable. Je rentre à pied, ouais, et j'appelle mon mec au téléphone pour avoir moins peur. Des fois, ça m'arrive de prendre des taxis carrément pour pas me retrouver seule dans la rue et le taxi me dépose devant chez moi et j'ai juste à passer ma porte, quoi.
Julie, habitante du 18e arrondissement de Paris, au micro RMC d'Inès Zegloul.
8h33 sur RMC. Mais qui a dit qu'au mois d'avril, on ne se découvrait pas d'un fil? Vous pouvez tomber la chemise aujourd'hui.
Oui, le temps sera estival, jusqu'à 30 degrés dans le sud cet après-midi au pied des Pyrénées. Pas très rassurant, diront certains. Mais d'autres veulent surtout voir le côté positif aujourd'hui. L'été avant l'heure, ça fait du bien au moral. Et ça tombe plutôt pas mal pour le début des vacances, pour la zone C. Écoutez ces vacanciers du côté de Marseillan dans l'Hérault.
C'est bien, impeccable. Nous avons un beau temps. Ça fait plaisir comparé à l'hiver. Les beaux jours sont là.
Le temps ici est magnifique. Ça fait plaisir de revoir le soleil. Il était parti pendant un petit moment.
Nous, ça fait une semaine qu'on est en vacances. On a eu du beau temps depuis une semaine.
Quel temps, hein? Magnifique, hein?
Bah oui, on profite, on fait du sport, on promène. Bon, la bronzette, ce sera pour plus tard.
Franchement, ça fait plaisir qu'il est là, le soleil. Ça commence à être l'été et tout ça. On commence à revoir des personnes, de la bonne ambiance. Et les campings commencent à se remplir.
Le foot, et il y en a un qui n'était pas très fier hier. Jean-Louis Gasset, coach marseillais à l'issue de la défaite 3-1 de l'OM face à Lille en ouverture de la 28e journée. Troisième revers de suite hein, en Ligue 1 pour les Marseillais. Écoutez, Jean-Louis Gasset, dépité.
Mais on est timide, on est... C'est vrai, en seconde mi-temps, on a donné le match, que des cadeaux. Aujourd'hui, on a été très mauvais. Il y a une espèce de sentiment de honte, parce qu'on a manqué de respect déjà au football et après à beaucoup de gens.
À 17h, Lens reçoit Le Havre. Aujourd'hui, à 21h, le PSG, leader du championnat, affronte Clermont. Le dernier de la Ligue 1, l'occasion de se préparer avant la réception de Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions mercredi prochain. Même si pour Luis Enrique, il ne faut pas tout de suite se focaliser sur ce rendez-vous européen.
C'est évident qu'on a des matchs très importants, mais le plus important là tout de suite, c'est qu'on n'a pas encore gagné la Ligue 1. Il faut gagner contre Clermont et ça va être très difficile parce qu'il y a toutes les circonstances réunies pour que ce le soit. On doit être en bonne position pour gagner tous les matchs. Je ne veux aucun joueur qui pense à Barcelone, je veux seulement des joueurs qui pensent à Clermont.
L'entraîneur parisien, la 28e journée de Ligue 1, à suivre, évidemment en direct sur RMC.
Ah bon?
Bah oui.
On a une journée de Ligue 1 qui est à suivre sur RMC.
Ouais.
On est la radio du football.
Bah, on est la radio de tous les sports.
Mais bien sûr, toutes les émotions sportives.
Et toutes les émotions, exactement.
Vous savez que le samedi et le dimanche, ça commence dès 9h30. Hein, avec les Jeux du sport.
Bien sûr.
Christophe Drouet qui arrive, vous avez hâte.
Ah bah oui, tous les matins, oui.
Bah, vous
allez, je suis déjà allé le voir.
Ouais. Ah bah voilà.
Voilà.
J'étais sûr.
Ouais.
J'étais sûr que vous étiez du genre à aller à son petit bureau. Ça va, Jean-Christophe?
Non, bah, on se croise à la cafétéria, on prend un petit café. Ah
bah voilà. Il sera avec nous tout à l'heure après le journal de 9h pour nous dire ce qu'il y a au programme des GG du sport à partir de 9h30. 8h36.
À suivre dans la matinale week-end.
On est donc ensemble jusqu'à 9h30. Et chose étrange, ce matin, Perico Légas nous emmène chez McDo. Perico chez McDo. Oui, vous avez bien entendu. Bon, c'est pour vérifier si la viande y est bien française. Le beurre et l'argent du beurre. Tout à l'heure, à 9h10.
À 8h50, le coup de main conso. Anaïs Castagna, c'est le coup d'envoi de la saison des vides-greniers.
Les vides-greniers, les brocantes. C'est vrai que la saison commence. Je vais vous donner plein d'astuces pour ne pas vous faire avoir sur les vides-greniers. Et puis pour bien vendre aussi, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'exposants.
C'est là que vous avez acheté votre veste.
Oh, ça veut dire
elle
quoi?
Elle est très jolie. Je trouve de très belles choses dans les brocantes.
Bien sûr, exactement. Ouais.
D'abord, nous allons revenir sur cet ado de 14 ans à Tours. Cette semaine, Chamseddine, Aviris Châtillon, Samara à Montpellier. Comment mettre fin à l'ultra-violence des ados au passage à tabac filmé sur les réseaux sociaux? Vous voulez des solutions? Eh bien, nos invités en ont et ils aimeraient que leurs idées soient reprises au niveau national. Paul Haïs et Florence Fitoussi, cofondateurs de l'association Jeunes et Engagés, sont avec nous dans 2 minutes sur RMC.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
RMC 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 8h40 sur RMC, ravi de vous accompagner jusqu'à 9h30.
L'entretien RMC.
Deux invités ce matin, d'abord vous, Florence Fitoussi, cofondatrice de l'association Jeunes et Engagés.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Co-fondatrice avec Paul Haïs, qui est aussi juge assesseur au tribunal pour enfants à Pontoise, dans le Val-d'Oise. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, juste rappelez-nous, au-delà de votre association, juge assesseur, en quoi consiste cette fonction? Et elle est importante au vu de l'actualité.
C'est une fonction extraordinaire qu'on a en France, et seulement en France. C'est permettre à des personnes que nous sommes, des citoyens, de rejoindre les tribunaux mineurs et de juger avec des professionnels de la magistrature des mineurs.
Vous n'êtes pas vous-même juge professionnel, mais vous assistez en quelque sorte aux audiences.
Alors c'est même plus fort que cela.
Vous assistez le juge.
On n'est pas assistant. On est vraiment juge. C'est-à-dire nous sommes trois face à un jeune homme ou une jeune fille qui comparaît dans une salle de tribunal pour mineurs. Et nous allons vivre une séance de procès avec des questionnements, avec des réflexions face à des dossiers que nous avons eu le temps d'étudier avant. Et quand nous allons nous retirer tous les trois, nous allons délibérer ensemble au même titre des trois. Il n'y a pas un qui supplée l'autre. Ce sont les décisions que l'on va prendre ensemble tous les trois dans cette pièce. Et quand on va rendre le verdict, c'est un verdict majoritaire. C'est 2-1 éventuellement, voire 3. Mais il n'y a pas, et c'est ça la force, il n'y a pas de subordination. C'est tous les trois, en notre âme et conscience, par rapport à ce que la loi nous autorise à poser, la sanction qu'on va poser.
Donc, vous connaissez très bien le droit des mineurs en particulier.
Essaye, en tout cas.
Cette violence, Samara, à Montpellier, Chamseddine, à Viry-Châtillon, avec un point commun soulevé par Emmanuel Macron, une violence désinhibée, a-t-il dit hier, chez des enfants de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez dans les tribunaux?
Oui. Oui, et de plus en plus de violence, plus en plus d'actes violents, pour mon expérience, avec une incapacité pour la plupart d'entre eux de prendre conscience de la portée de ce qu'ils ont produit, de ce qu'ils ont fait. C'est terrible.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on se retrouve des fois dans des situations où, pour nous, dans nos parcours d'adultes, qui nous paraît quelque chose d'incroyable ou d'effroyable, combien de fois la personne que nous jugeons, on parle de mineurs, n'ont même pas le sentiment d'avoir fait du mal. Le mot excuser, on ne l'entend même pas. Il y a toujours une raison dans la tête du jeune. C'est terrible.
C'est ce que disait hier le maire de Viry-Châtillon. Il était mon invité ce matin sur RMC. Il disait qu'il va falloir réapprendre à punir, à apprendre à ses enfants qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Écoutons-le, voilà ce qu'il souhaite pour que la mort de Chamseddine à Viry-Châtillon ne soit pas vaine.
On n'a pas le droit de baisser les bras non plus, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. C'est pas facile. Il y a des législateurs, il y a des ministres. Nous, on est là pour essayer de mettre en application tout ce qu'ils nous demandent de mettre. Et vous voyez, ce n'est pas encore suffisant. Il faut apprendre aux enfants, quand ils sont jeunes, que oui, il y a le bien, puis il y a le mal. Et puis le mal, on n'a pas le droit de le faire. Et surtout quand on le fait, on est puni. Donc il va falloir peut-être nous réapprendre à nous, à vraiment punir, à être fort, à être ferme aussi.
Réapprendre à punir. Florence Fitoussi, si je me tourne vers vous. Votre association intervient dans les établissements scolaires, notamment pour lutter contre le harcèlement scolaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec le maire de Viry-Châtillon? Réapprendre à punir.
Je nuancerais le mot punition et je le transformerais plutôt en sanction. Et finalement, c'est un peu le travail que fait notre association quand on arrive dans les écoles. Et on leur apprend effectivement ce que c'est une sanction, et une sanction pénale, et les conséquences des actes interdits par la loi, et ce que représente une sanction positive, hein, version sanction négative, et ce que ça peut leur apporter, alors qu'on parle de notion de bien et de mal, finalement, de choisir la voie positive, ou en tout cas la bonne direction dans la vie.
C'est-à-dire avant d'en arriver au drame de Viry-Châtillon, à la mort d'un ado de 15 ans dont on ne sait même pas encore ce matin les raisons pour lesquelles il a été agressé, avant cela, il peut être mis en place des sanctions positives. Concrètement, c'est quoi des sanctions positives, Florence Fitoussi?
Alors, avant de mettre en place des sanctions positives, l'idée c'est d'apporter une pédagogie qui permette de comprendre ce que c'est une sanction positive, ce que c'est une sanction négative et ce que ça va, ce qu'un acte va conduire. Ça veut dire que nous, notre association, avec Jeunes et Engagés, intervient peut-être déjà dès l'âge de 8, 9, 10 ans pour ce type d'explication. C'est de la prévention. On fait de la prévention au harcèlement.
Vous faites ça au niveau départemental?
On fait ça au niveau départemental, mais on fait ça aussi au niveau régional. Aujourd'hui, on est sur Paris, on déploie notre action. On a ancré notre action dans le Val d'Oise, où là, aujourd'hui, on est à plus de 70 établissements, j'ai compté cette année, sur lesquels on est intervenu, où on intervient de l'élémentaire jusqu'au lycée. Et finalement, depuis 10 ans où on intervient, on comptabilise quasiment 90 000 jeunes rencontrés, soit par le biais des écoles qu'on a touchées, soit par le fait que finalement, ils nous suivent
L'école a un rôle central. C'est avant de venir à un exemple des interventions que vous faites et qui est assez frappant. Ce qui est frappant aussi, c'est les propos d'Emmanuel Macron hier qui disait « Je veux pas qu'on fasse des raccourcis avec l'école. Les agressions ultra-violentes de cette semaine, ça s'est passé en dehors de l'école. Je ne sais pas si l'école est liée à ça. » Bien sûr que si l'école est liée à ça, Florence Fitoussi.
Alors, le travail qui doit être fait au sein de l'école, c'est un travail de communication et de cohésion entre des jeunes et des adultes. Aujourd'hui, il faut remettre au centre une forme de confiance de l'enfant dans l'adulte pour pouvoir, à un moment, leur permettre de signaler ou d'être des donneurs d'alerte pour certains quand il y a des situations pour éviter peut-être au niveau des collèges à ce que des drames arrivent.
Une sorte de statut même, de lanceur d'alerte, des élèves qui seraient déterminés en début d'année, à chaque fois qu'ils voient des conflits, qu'ils sentent quelque chose, d'être le responsable, la personne désignée pour aller...
Alors peut-être, ou qui s'autodésigne, mais finalement qui développe une prise de conscience qui lui permettra, quand il sent qu'une situation va évoluer, d'alerter les bonnes personnes pour que les bonnes personnes puissent avoir le temps de réaction qu'il faut pour éviter le drame.
Paul Aïs, juste avant qu'on en termine, parce que le temps passe déjà, cet exemple, quand vous intervenez devant les élèves, une technique bien particulière, une poupée à qui on fait manger la poussière. C'est quoi exactement et en quoi c'est utile ?
Toujours pareil, on est dans la prévention et on a à faire vivre pour de faux ce que l'on veut jamais vivre pour de vrai. Aujourd'hui, il y a deux établissements scolaires qui malheureusement sont plongés dans une réalité terrible. Nous, on travaille avec des écoles qui connaissent ou qui ont déjà connu ce genre de choses. Quand on a imaginé de faire fabriquer des personnages à taille enfant, en tissu, même le même poids qu'un enfant, et qu'il va circuler dans l'établissement scolaire pendant une semaine, porté par ses élèves de sixième qui ne savent même pas pourquoi ce personnage est là. Il va vivre sa vie Et nous savons comment. Une poupée, imaginons, même nous, quand on était élèves ou collégiens, on va réagir, des petites claques, ça marrant, ça amuse, on fait une passe à 10 avec ce personnage. Et ce qu'ils ne savent pas, les autres, c'est que les mômes de 6e vont faire un rapport fin de journée de la journée de ce personnage. Au bout de 8 jours, le personnage ne réapparaît pas. Où est-il ? Que devient-il ? Nous apparaissons. Il s'est passé quoi ? On a l'historique et on va travailler avec ses enfants en disant « Et imaginons que c'était un vrai être humain. » Quelles sont les conséquences? Pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Et ce sont les enfants qui disent, il a peut-être fait une tentative de suicide. Ok, on note. Donc il y aura obligatoirement une réaction de parents face à cela. On va imaginer. Et on est toujours dans le côté vivre pour de faux, ce que je veux pas que tu vives pour de vrai. Les cinquièmes vont récupérer cette situation travaillée par les sixièmes. Les cinquièmes vont faire une réunion de crise pour l'amener au quatrième, ils vont faire le procès de l'affaire. On a un camarade de l'école qui a voulu se suicider parce qu'on lui a fait manger la poussière. Et les troisièmes vont travailler sur tout ce travail de l'école lié à ce personnage sur un projet de loi. Nous sommes tous des bouffons. Protégeons les bouffons de la République que nous sommes.
Manière d'engager le dialogue et la réflexion. Je suis sûr que c'est marquant pour les élèves parce que c'est déjà marquant chez nous quand on vous écoute ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous en studio après cette semaine marquée par l'ultra-violence de nos ados, de nos enfants. Paul Haïs, Florence Fitoussi, cofondateur de l'association Jeunes
Engagés. Non, les écoles ne sont pas responsables. Les écoles bossent comme des malades, ils font ce qu'ils peuvent et tous les acteurs sociaux qu'on rencontre, extérieur, intérieur, bossent. C'est un travail collégial. Arrêtons de chercher obligatoirement le responsable. On est tous co-responsables.
Merci à vous. Il est 9h10, vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Bienvenue sur RMC. Je vous avais prévenu, Marie.
Oui, elle est
mais
fan.
Mais trois notes de Clara Luciani et ça y est, Anaïs Castagna.
Je connais toutes les paroles. Est-ce que vous avez envie que je chante? Non, ah, pas bah vraiment.
Si. On va chanter du Clara Luciani dans le bonus RMC dans 2 minutes et vous verrez pourquoi.
Mais d'abord,
RMC.
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Anaïs Castagna?
Bon, on parle des brocantes, Anaïs, oui. Ce matin, des vide-greniers, passion française. 50 000 organisés en France chaque année. D'ailleurs, il y en a plein ce week-end parce que ça y est, la saison est lancée.
Oui, à la Mézières, en Ille-et-Vilaine, à Allan, en Haute-Garonne ou encore à Guise, commune de 5 000 habitants dans l'Aisne où l'association Les Voisins en fait organise demain son 11e vide-grenier. Vous pouvez retrouver toutes les brocantes et vide-greniers à côté de chez vous sur videgrenier.org ou sur Brocabrac.
Alors, les vide-greniers qui sont devenus une façon de se faire un peu de sous, c'est vrai. Mais est-ce que pour les exposants, ça vaut vraiment le coup?
Le prix au mètre linéaire varie de 1,50 euro à 6 euros. Ça dépend de là où vous êtes et de la politique de l'association qui organise. À Guise, par exemple, c'est 1,50 euro le mètre. Ça n'a pas varié depuis 11 ans, donc c'est très intéressant. Sachant que pour être à l'aise, il faut prévoir un emplacement de 2-3 mètres minimum. Donc c'est pas très cher, vite rentabilisé, surtout si vous avez des vêtements pour enfants.
Vous avez d'autres conseils pour ceux qui voudraient se lancer? Je sais pas, ça peut donner envie. Là.
Bien sûr, il faut se mettre en place très rapidement. Exemple à Guise, ça commence demain à 6 heures du matin. Vous devez vous installer à 5h30 parce que c'est à cette heure-là que viennent les acheteurs les plus motivés avec des lampes torches. Et oui, autre conseil, votre stand doit faire envie. Les affaires doivent être rangées par catégorie, les livres pas avec les livres, oula, les vêtements sur un portant. Exactement, vous avez tout compris. Et puis, on n'hésite pas à faire des lots. Ça donne à l'acheteur l'impression de faire une bonne affaire.
Et pour les acheteurs, du coup,
On se prépare à négocier, ce qui n'est pas évident, je vous l'accorde.
Tu l'as fait à combien, la statue?
J'ai dit 30 000.
Oh, dis, tu nous vois venir, là. Ça vaut 15 000 francs, ça?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000.
C'est un peu moi, j'arrive jamais à négocier. Mais bon, c'est le principe. En sachant que pour négocier, vaut mieux avoir de la petite monnaie, des pièces de 1 et 2 euros. Ne sortez pas les gros billets, évidemment. Vous habillez sobrement, jean, basket, histoire que le vendeur ne se dise pas que vous avez les moyens. Et puis surtout, on s'emballe pas. Hein. Pas question de dire que vous avez eu un coup de cœur sur tel ou tel objet. Sinon, le vendeur ne va rien lâcher. N'hésitez pas à détailler aussi les faiblesses du produit. Faut argumenter tout en se montrant désintéressé. C'est la meilleure manière de chiner.
J'ai l'impression que c'est pas pour vous non plus.
J'adore. Ah si, j'adore. Est-ce que je réussis de, est-ce que je fais des bonnes affaires? Ça c'est pas sûr.
Voilà,
vous oui, c'est pas tout un art.
Vous n'arrivez pas à cacher votre truc. Ah, j'ai un coup de cœur pour votre objet.
Ah,
c'est ce que vous faites.
Bah, vous seriez surpris.
C'est vrai.
Ouais, je vous emmènerai un jour.
Ah bah avec grand plaisir.
Hein, merci Anaïs, votre coup de main qu'on soit retrouvé en podcast sur l'appli RMC.
9h05.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Alors, Marie, pourquoi Clara Luciani ce matin?
parce qu'elle a su faire plaisir à ses fans hier. Et oui, la chanteuse qui avait annoncé il y a quelques mois une pause pour profiter de sa famille et de son premier enfant né en septembre dernier vient d'annoncer son retour sur scène et partout en France, puisqu'elle va se lancer dans une tournée des Zéniths. Et je pense qu'on va prendre nos places avec Anaïs, n'est-ce pas?
Moi j'adore, je l'ai déjà vue, hein.
C'est vrai,
et elle est géniale. Voilà. Non mais c'est vrai, franchement.
C'est tout, fin de l'histoire.
Bah voilà, fin de l'histoire. À l'Olympia, voilà, j'étais en train de danser, évidemment.
Évidemment, on chante, on danse, et c'est dans un post Instagram qu'elle s'est adressée à ses fans en leur disant « L'attente est moins longue quand on sait qu'elle finira à une date précise. Je retourne le sablier, chaque jour je me rapproche un peu plus de chez vous. » Mais c'est magnifique, on a envie d'être proche d'elle quand elle nous dit ça. Donc la tournée commencera le 18 janvier 2025, ce sera du côté d'Amiens. Elle ira aussi à Bordeaux le 23 janvier, le 6 février à Nantes, ou encore le 6 mars à Paris. Elle se rendra même en Suisse et au Luxembourg pour deux dates exceptionnelles. Alors évidemment, pendant ces concerts, on aura le plaisir d'écouter les titres qui ont fait son succès. Nu, extrait de son tout premier album Sainte Victoire, sorti en 2018, ou encore Le Reste, qui figure sur l'album Cœur de 2021, mais pas que, puisqu'en mai dernier, la chanteuse annonçait retourner en studio pour préparer son troisième opus. Alors pour l'instant, rien n'a fuité, ni le nom, ni la date de sortie. Mais évidemment, vu que la tournée est prévue pour 2025, on imagine que l'album est prévu pour 2024. Ouais, fin d'année,
bien
peut-être.
Bien sûr, évidemment.
Anaïs l'attend, en tout cas. Pour ce qui est de la tournée, en revanche, la billetterie est ouverte depuis hier.
Alors ?
Bah ouais, bah on prend les places, Mathieu, je vous emmène.
Bah, dites-moi,
allez, la brocante, là,
le tenir. Bah oui. Il va falloir prendre des vacances, c'est tout, hein. Incroyable. Merci beaucoup, Marie. La météo, les infos de 9h arrivent. Restez bien sur RMC.
La matinale week-end.